Chapitre 3e. Un matin, Lucienne vint me trouver rue Berthollet. Elle n'était jamais venue. Elle n'avait jamais manifesté la plus petite curiosité pour l'endroit où je vivais. J'étais plein de confusion d'être surpris ainsi par une si jolie femme. Je cachais des chemises, je mettais superficiellement de l'ordre, lorsque brusquement ma gêne s'évanouit. Deux hommes étaient venus chercher Roger. Ils étaient partis ensemble. Roger avait dit qu'il serait de retour dans une heure. Trois jours s'étaient écoulés et il n'avait pas reparu. Je me rendis immédiatement à Versailles. Personnellement, je n'avais aucune relation. Mon père seul pouvait faire quelque chose. Il me semblait que tout était perdu. J'éprouvais une telle peur que je ne regardais personne, que je ne faisais plus attention à rien. Cet événement était si grave que toutes mes petites précautions habituelles m'apparaissaient tout d'un coup dérisoires, comme l'est, au moment du naufrage, le système d'accrochage d'une bouée. Qu'allait faire Roger s'il était arrêté? Allait-il parler de moi? Quand on n'a jamais été en prison, on ne peut savoir ce qui se passe dans l'esprit d'un prisonnier. J'avais toujours eu confiance en Roger. Il était le seul de mes camarades d'évasion qui eût eu de l'affection pour moi. Il m'avait préféré à tous les autres, quoique dans cette misère, nous fussions à peu près tous pareils. Qu'allait-il faire maintenant qu'il était pris? C'était moi qu'on recherchait vraiment et non pas lui. Me dénoncerait-il pour se sauver lui-même? Je me le demandais sans cesse en vain. C'était aussi difficile à deviner que la réaction d'un homme mis en joue. Cet homme va-t-il se laisser tomber à terre, se jeter à gauche, à droite, en avant, reculer, se sauver? Je me rappelais que Roger avait toujours été une droiture parfaite, mais une fois pris, n'allait-il pas devenir un autre? Dès qu'il me vit, mon père comprit qu'il était arrivé quelque chose. Je lui racontai immédiatement ce qui venait de se passer. Je le suppliai de m'aider, d'intervenir auprès de ses amis pour tâcher de savoir ce qu'était devenu Roger. Il me répondit que cela lui était difficile. Mon agitation l'étonnait. Il trouvait évidemment que j'exagérais un peu en me faisant tant de soucis. Il respectait cependant mon sentiment. Il n'en fut pas de même avec les autres gens que j'allais voir aussitôt après. Je compris qu'il trouvait que je manquais totalement de discrétion. On avait bien voulu faire pour moi ce qu'on pouvait, mais on trouvait effronté de ma part que, sous le prétexte que ces interventions n'avaient servi à rien, je vinsse les solliciter de nouveau pour quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. On me répondit plus gentiment que mon père pourtant, mais je sentis qu'on agirait encore moins. J'étais arrivé chez tous ces gens avec cette assurance que nous donne un grand événement qui vient de se produire. J'étais encore bouleversé. Je m'imaginais que tant que la guerre gagnait, la paix ne serait pas revenue. Il existait entre les hommes une sorte de solidarité qui me permettait d'aller les voir, de les brusquer sans les prévenir, d'être exigeant, de leur demander les services les plus inattendus, puisqu'il s'agissait d'une cause belle, car nous étions tous en réalité dans la même affreuse situation. Cela m'avait déplu. J'avais eu l'air de me croire tout permis, alors que le monde faisait des efforts inouïs pour se croire en période normale, pour améliorer le peu qui restait. Chacun était persuadé que son propre cas n'était pas aussi désespéré que l'ensemble le laissait croire. Et moi, dans ma naïveté, je me présentais chez tous ces égoïstes comme si nos malheurs ne faisaient que commencer, comme si nous devions nous tenir les coudes, comme si nous étions tous égaux. On se disait « Celui-là, il ne perd pas le nord, il sait au moins profiter des circonstances. » C'était tout juste, si je n'avais pas l'air d'un profiteur de la guerre en me présentant avec un toupet incroyable chez ces gens qu'avant la guerre, je n'eusse jamais eu l'occasion d'approcher. Je n'en continuais pas moins mes démarches. J'allais voir mon Danel. J'éprouvais un immense besoin de dévouement. La peine de Lucienne me faisait un mal affreux. Quand, comme moi, on a tellement besoin d'autrui, le jour où les rôles sont renversés, on perd toute mesure. Aussi, quand je pense aujourd'hui à tout ce que je fais à ce moment, je ne peux m'empêcher d'éprouver à la fois de la fierté et de la gêne. Je me rends compte que mon désir de bien faire avait découvert certains de mes défauts qui, dans la vie courante, n'avaient pas l'occasion de se manifester. J'avais trop laissé paraître, oh, bien inconsciemment, que je me considérais comme plus qualifié que quiconque pour m'occuper des gens dans le malheur. J'avais trop donné de conseils. J'avais trop voulu aussi apporter de réconfort. Au fond, j'avais manqué un peu de simplicité et de véritable affection comme d'ailleurs je le constate aujourd'hui dans toutes les circonstances mouvementées de ma vie. J'avais trop agi comme si ce malheureux événement avait été annonciateur de ce qui allait m'arriver, comme si, après avoir été longtemps contenu, j'avais eu brusquement la possibilité d'agir. Quand je retournais chez Lucienne, il se passa une scène assez pénible. Elle me dit qu'elle m'avait cherché toute la journée. Tout à coup, elle prit un ton menaçant. Elle voulait que je m'arrange d'une façon ou d'une autre à savoir si Roger n'était pas au cherche-midi. Je lui dis que j'avais déjà essayé de le savoir, que mes démarches avaient été inutiles, et comme on me l'avait fait tant de fois, j'ajoutais, tout comme ces gens que je détestais, comme mon père lui-même, que je ne voyais plus ce que je pouvais faire. Pour la première fois, je sentis alors une certaine méchanceté dans la voix de Lucienne. « Je veux savoir ce qu'il faut faire, » me dit-elle. « Vous le savez, vous? Vous n'allez pas me faire croire que vous ne le savez pas. » Je continuais malgré tout à interroger les gens capables de me fournir des renseignements utiles. À mesure que le temps passait, le mystère qui entourait le sort de Roger me semblait de plus en plus inquiétant. J'avais l'impression qu'il pouvait m'arriver quelque chose d'un moment à l'autre. Pour me rassurer, je me disais que toute une partie de la vie de Roger m'avait été inconnue. Il avait pu être arrêté pour une affaire de fraude, de marché noir. J'interrogeais Lucienne à ce sujet, lui demandant s'il n'était au courant de rien. Depuis la disparition de Roger, personne n'était venu. Aucune visite n'avait été faite soit à sa famille, soit à Lucienne. Il était évident pourtant que quelque chose se tramait autour de nous. Si l'on avait découvert Roger, il n'y avait aucune raison qu'on ne me découvrît pas aussi. De plus, j'avais le sentiment qu'il fallait que je disparaisse, que je ne remisse plus les pieds chez Lucienne, ni dans la famille de Roger, ni rue Drouot. Mais c'eût été d'une telle lâcheté que je n'osais le faire. Le lendemain, je fis cependant part aux parents de Roger et à Lucienne de mes craintes. J'étais certainement surveillé. J'avais dû être dénoncé en même temps que Roger. Mon tour ne tarderait pas. À ma grande surprise, il ne vint à l'esprit de personne, bien qu'il fût évident que j'étais en danger, de me donner le conseil que j'attendais et qui était de ne plus revenir. On eût dit que tout le monde avait oublié combien grave était ma situation. J'avais même le sentiment qu'on eût trouvé naturel que je partageasse le sort de Roger, que mon état d'homme libre au moment où Roger avait disparu était choquant. Cet égoïsme me fit entrevoir quel eût été le mépris de tous ces gens si brusquement, par crainte d'être arrêté à mon tour, je n'eusse plus reparu. Je crois pouvoir dire que personne ne m'eût fait l'honneur de penser que j'avais été victime, moi aussi, d'un enlèvement. Mais le lendemain du jour où je faisais ces amères réflexions, je me rendis compte de la tournure fâcheuse et injuste de mon caractère. Je venais d'arriver chez Lucienne lorsqu'elle me dit en me prenant affectueusement le bras « Allez-vous-en vite, ne revenez pas. Quelqu'un est venu vous demander hier. C'était certainement un policier. » Je fus tellement surpris par cette gentillesse, elle contredisait tellement mes pensées et les faisait paraître si mal intentionnées que je me sentis envahi d'une immense reconnaissance pour cette femme. Grandi par l'épanouissement de ce qu'il y avait de meilleur en moi, j'eus un mot en contradiction si visible avec ma conduite de ces deux dernières années, conduite d'homme plutôt craintif, que Lucienne ne put se retenir de rire. Je m'écriai « Il en faut davantage pour me faire peur. »« Vous êtes fou !» me cria Lucienne. « Il y a toujours des gens qui profitent des circonstances, » ajoutai-je sur le même ton. « Partez, partez vite !» continua Lucienne. « Il ne faut pas que vous soyez pris vous aussi. » J'étais si heureux, si fier qu'enfin quelqu'un manifesta de la crainte pour moi, que je ne pouvais m'empêcher de faire semblant de la considérer comme sans objet. Les rôles étaient renversés. Voilà que je me croyais tenu de rassurer Lucienne en me posant devant elle en homme sûr de lui.